Bonjour à tous et bonjour à toutes. L'actualité, vous le savez, depuis le 7 octobre, c'est les suites de l'attentat terroriste du Hamas. Beaucoup de choses sont dites, on en sait très peu finalement. C'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir avec moi Olivier Granli, qui est le correspondant de Radio Juive de France et qui est également journaliste à Calta. Bonjour Olivier Granli.
Bonjour Jean, shalom à tous.
Ça, je voulais juste savoir, tout d'abord, vous êtes situé où en Israël? Vous êtes à Jérusalem, à Tel Aviv à...
Alors moi, personnellement, j'habite, oui, à Jérusalem. Et voilà, depuis le début de la guerre, on essaye de rester, en tout cas, de pas trop se déplacer pour le moment, bien qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile. Au début, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, moi, je suis, oui, à Jérusalem.
Juste avant, toujours au niveau factuel, est-ce que, je dirais, la vie a repris en Israël? On sait qu'il y a énormément de magasins, de bureaux qui ont été fermés. Est-ce que ça se rouvre ou c'est ouvert?
Écoutez, je crois qu'il faut expliquer qu'on rentre un peu dans une sorte de routine de guerre, hein, qu'on va appeler, puisque malheureusement, je pense qu'on... On va entendre en parler, mais je pense qu'on va avoir encore quelques semaines, peut-être même encore quelques mois dans cette situation. Et donc, plus ou moins, je dirais, les magasins ont réouvert, les restaurants ont réouvert. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller à Tel Aviv, et c'est vrai que c'est un peu plus animé qu'ici à Jérusalem, bien que Tel Aviv est une ville où il y a tous les jours pratiquement où les gens sont, où il y a des sirènes qui retentissent.
Des roquettes,
oui. Pour les roquettes, oui, en effet. Voilà. D'une manière générale, les écoles aussi ont repris. Les activités aussi ont repris d'une manière plus ou moins normale. La seule différence, c'est peut-être que le soir, les magasins ferment un peu plus tôt, les restaurants aussi un peu plus tôt. Mais voilà, mais on rentre en fait dans une sorte de routine de guerre qui, à mon avis, va encore durer assez longtemps, malheureusement.
Alors, une question que je me pose régulièrement en entendant tout ce qui se passe en Israël, c'est votre ressenti, votre morale, j'ai envie de dire. Est-ce que, à ce niveau-là, les Israéliens en général, et vous peut-être en particulier, il y a quelque chose qui a été cassé, quelque chose qui ne reviendra pas? Est-ce que vous vivez bien?
Alors, c'est un peu complexe de répondre à cette question, parce que chacun le ressent d'une manière différente. Mais je dois dire que d'une manière générale, je pense qu'on peut dire plusieurs choses. D'abord que tout le monde ici pense que c'est une guerre juste. C'est-à-dire que cette guerre qu'Israël n'a pas cherchée et qui a été déclenchée par le Hamas, est la chose la plus juste à faire, même si c'est au prix, c'est à des prix très durs, puisqu'on entend encore ce matin, il y a eu encore deux soldats qui sont tombés. On entend, je pense qu'on est à peu près presque à 37 ou 38 soldats qui sont tombés depuis le début des opérations. Il y a beaucoup plus de soldats qui sont tombés depuis le début de cette guerre, qui ont été tués dans la première journée seulement de cette guerre. Même si les prix sont très durs à payer, puisque vraiment, il y a 360 000 réservistes qui sont sur le front, ça veut dire que c'est 360 000 personnes qui ne sont pas chez eux, qui ne travaillent pas. C'est des familles qui sont totalement décomposées aujourd'hui, où la femme se retrouve toute seule à s'occuper de la maison, des enfants, etc., qui pose des problèmes énormes. Mais je crois que tout le monde est prêt à faire un effort aujourd'hui, justement parce que c'est une guerre juste et que la justice veut, et la morale même veut, que le Hamas doit être anéanti. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et la deuxième chose aussi, c'est que tout le monde a envie d'aller jusqu'au bout de cette guerre. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'à partir du moment où on est rentré, à partir du moment où le gouvernement a décidé d'une opération terrestre, et d'une opération qui est très difficile, même si, on va peut-être en parler dans quelques instants, l'armée israélienne arrive à avoir des résultats assez impressionnant. Tout le monde est persuadé qu'il faut aller jusqu'au bout de cette opération.
Qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'au bout?
Alors, une question qu'on pose ici, parce que lorsque le Premier ministre, le ministre de la Défense ont annoncé justement l'entrée de l'armée dans Gaza, et ils ont annoncé deux buts très très précis. Le premier, c'est d'aller donc d'anéantir le Hamas, et le deuxième but, c'est bien entendu la libération des otages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, libération des otages, on comprend que c'est quelque chose de beaucoup plus concret, et on sait comment on arrivera à un résultat, et on sait que, en tout cas quand on aura réussi dans cette mission. Qu'est-ce que ça veut dire anéantir le Hamas? Là aussi, il y a plusieurs, on va dire, avis sur la question. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va anéantir les structures? Est-ce qu'on va anéantir les terroristes? Est-ce qu'on va anéantir les dirigeants? Jusqu'à quel dirigeant on va pouvoir arriver? Ça, c'est des questions qui personne n'a de réponse pour le moment. En tout cas, peut-être que les plus hauts dirigeants de l'État ont des réponses, mais pour le moment, c'est pas assez clair pour la population. Mais en tout cas, bien entendu, on veut un effort pour que le Hamas ne puisse plus agir depuis la bande de Gaza. Et je pense que c'est plus ou moins ça la réponse.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une question des otages. Il y a, je crois, 260 otages pris par le Hamas. En Israël, on est prêt, je dirais, malheureusement, on est prêt à le sacrifier pour atteindre l'objectif.
Alors, là aussi, c'est les avis sont très, très partagés. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Israël est obligé de faire le maximum pour amener les otages à la maison.
On parle de 240. Il y en a beaucoup quand même.
C'est 240, ouais. On parle de 240.
Ça fait beaucoup.
Il a appris ce matin qu'une des otages, Noah Marciano, qui était soldat et qui était retenu en otage par le Hamas,
est
décédé. Et c'est sûr que d'un point de vue national, d'un point de vue du moral de la nation et aussi de la morale tout court, Israël a l'obligation de faire le maximum pour le retour de ces otages. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire le maximum? Est-ce qu'il faut échanger pour cela des prisonniers? Est-ce qu'il faut faire une action militaire beaucoup plus intense? Est-ce qu'il faut faire une opération spectaculaire où on va libérer les otages? Toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes. Après, bien entendu, c'est des questions aussi de politique, des questions de pression internationale aussi qui sont très importantes. Mais je crois que si, Chas v'Shalom, on arrivait à une situation, on arrivait à la fin de cette guerre et tous les otages n'étaient pas rentrés à la maison, je pense que ce serait un coup très dur pour la nation, pour le pays d'Israël.
Alors, évidemment, on va le dire à nos auditeurs, ça change toutes les minutes, toutes les heures, donc une information qu'on va vous donner peut-être maintenant sera obsolète dans 10 minutes ou au moment où on parle. Est-ce qu'on peut, Olivier Granvic, faire un bilan, je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, un état des lieux au niveau militaire? On sait que Gaza a été investi par les Israéliens, par l'armée israélienne. On en sait quoi de plus?
Alors, bien sûr, ce qu'on sait, c'est ce que l'armée autorise à la publication. Il y a beaucoup de choses qui circulent. D'ailleurs, je tiens à prévenir un peu les auditeurs, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas croire tout ce qui circule sur les réseaux sociaux et de prendre que les informations qui sont données par le porte-parole de l'armée. Je pense que depuis le début de la guerre, depuis donc un peu plus d'un mois aujourd'hui, on a un rendez-vous quotidien, le soir à 20h à peu près, avec le porte-parole de l'armée israélienne qui vient à la télévision devant les Israéliens et qui donne chaque jour des informations sur ce qui se passe dans Gaza, qui explique quelle est la progression des troupes, sur ce qui est permis d'expliquer. Et voilà, c'est les informations les plus sûres qu'on ait. Alors, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que les troupes israéliennes sont à l'intérieur de la bande de Gaza, elles sont, on va dire, avancées dans le nord de la bande de Gaza, ils sont autour de la ville de Gaza, ils sont aussi autour de certains hôpitaux, puisqu'on sait que ces hôpitaux ont été, pour certains quartiers généraux, des dirigeants du Hamas, donc ils sont autour des hôpitaux, et bien entendu il y a la problématique d'attaquer ces hôpitaux, puisque bien entendu il y a encore des personnes qui sont malades, et l'armée israélienne essaye de faire en sorte que ces personnes malades sortent de ces hôpitaux et soient transférées dans d'autres hôpitaux pour avoir vraiment la main libre concernant ces hôpitaux. Donc ça, c'est concernant l'endroit, où, si vous voulez, où se trouvent aujourd'hui les troupes israéliennes. Ce qu'il y a d'important aussi à signaler, et c'est peut-être une nouvelle méthode qui a été utilisée par l'armée, en tout cas, qui est en tout cas très efficace, c'est qu'il y a en fait une collaboration entre les différentes armées israéliennes. C'est-à-dire qu'il y a les troupes au sol, il y a aussi l'aviation qui est là pour donner des renseignements, les troupes au sol aussi qui sont là pour indiquer à l'aviation israélienne quelles sont les cibles qu'il faut attaquer, et bien entendu aussi les services de renseignement, et puis aussi tous les moyens technologiques qui existent aujourd'hui pour arriver au but, donc pour la victoire. Alors c'est quoi ces moyens technologiques? On parle bien entendu de moyens qui existent et qui n'ont pas encore été révélés au grand public, et c'est bien entendu concernant la problématique des souterrains, qui est un très gros problème pour Tsahal, puisqu'on sait que le Hamas a construit des milliers de kilomètres de souterrains sous la bande de Gaza, où aujourd'hui se cachent la plupart des terroristes du Hamas, et bien entendu tous les dirigeants du Hamas qui, comme on sait, sont très courageux et qui se cachent pour le moment, donc et qui sont bien protégés. Donc ces souterrains, le ministre de la Défense l'a annoncé quelques jours, Tsahal a trouvé des moyens technologiques pour les anéantir. Elle n'a pas dit beaucoup plus, bien entendu, mais en tout cas, c'est le sujet aujourd'hui qui, on va dire, préoccupe le plus les dirigeants de l'armée israélienne.
Alors, Olivier Rani, qui est avec nous depuis Jérusalem, on a parlé, évidemment, vous avez parlé à l'instant même, du côté militaire, du côté diplomatique et géopolitique. Il y a une grosse pression sur Israël pour un cessez-le-feu, puisque malheureusement, je dirais, la guerre a fait des civils et d'autres personnes des civils privilégiés. Est-ce que Netanyahou risque d'écouter les conseils de Biden et de Macron et co?
Alors, je pense qu'on ne peut pas mettre le président Biden et le président Macron dans le même panier, je voudrais dire avec un peu de respect, mais je pense que les déclarations de Emmanuel Macron il y a quelques jours étaient mal prises, ici en Israël, très mal prises d'ailleurs. Il a essayé de corriger le tir en appelant le président de l'État, Herzog, en faisant des déclarations selon lesquelles c'était une interview en anglais, qu'il n'arrivait pas à se débrouiller. Ici, on accuse un peu le président Macron de se tromper d'ennemi. C'est ce qu'on a dit après les déclarations. Il ne faut pas que Emmanuel Macron se trompe. L'ennemi, c'est pas Israël, c'est pas le fait qu'il y ait des victimes collatérales. Le problème, c'est bien entendu le Hamas, et c'est ce que on doit faire pour anéantir le Hamas. Le président Biden, pour le moment, a quand même un discours qui permet à Israël une certaine liberté d'action. C'est vrai que de temps en temps, il a des réflexions en disant qu'il faut faire attention, qu'il faut faire attention aux victimes, des civils, qu'il faut tout faire pour qu'il y ait le moins de victimes civiles. Mais en tout cas, pour le moment, on va dire qu'il n'y a pas une pression trop énorme qui est exercée par le président Biden, le président américain, sur Benjamin Netanyahu et sur le dirigeant israélien concernant justement la façon dont sont menés les combats. Et il y a une certaine liberté pour le moment. Bien entendu, Joe Biden et Benjamin Netanyahu s'entretiennent régulièrement au téléphone pour justement parler de cette situation. Mais on peut dire que pour le moment, les États-Unis, la maison blanche et Joe Biden laissent quand même une certaine liberté aux Israéliens.
Alors, je veux savoir quel écho vous avez par rapport à l'importation du conflit en France. Il y a eu une manifestation dimanche dernier. Il y a eu, on le sait, beaucoup d'actes antisémites. Est-ce que, entre guillemets, en Israël, ça vous inquiète, ou ça passe-tu?
Je veux dire qu'on a peut-être d'autres sujets d'inquiétude aujourd'hui, mais c'est sûr qu'on est inquiet. C'est sûr que aujourd'hui, on est conscient que ce qu'on est en train de vivre ici, c'est quelque chose qui risque de déborder et qui risque d'être exporté dans d'autres pays. C'est pour ça que on essaye de faire comprendre, encore une fois, au monde entier. Et c'est vraiment la chose d'aujourd'hui la plus importante. Je crois que chacun d'entre nous, à chacun à son niveau, a cette obligation, ce devoir d'expliquer combien cette guerre est juste. C'est pas une guerre où on s'en prend au Hamas parce que il a effectué des massacres, des choses horribles, et qu'on veut venger ceux qui sont morts. C'est pas le but de cette guerre. Le but de cette guerre, c'est vraiment d'anéantir le Hamas pour que cela ne se reproduise plus. D'abord, bien entendu, en Israël, et pour que cela ne se passe pas dans d'autres pays, parce que, tout simplement, si on laisse le Hamas tel quel, si on laisse le Hamas continuer à prospecter, ce qu'on a vu le 7 octobre dans le kibboutzim du sud de la France, du sud d'Israël, on le verra dans d'autres pays, malheureusement. Donc, c'est une bataille que mène Israël, non seulement pour son pays, bien entendu, pour ses civils, bien entendu, avant tout, mais c'est une bataille qu'Israël mène pour le monde entier.
Alors, malgré tout, il y a eu une faillite générale de l'État d'Israël, les renseignements, l'État, l'armée, etc. Une question que tout le monde se pose, est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel, avec Benjamin Netanyahou à sa tête, peut continuer à diriger le pays après cette opération Gaza?
D'abord, c'est difficile de faire des pronostics. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il aura, il aura la possibilité? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que beaucoup ont pris déjà leurs responsabilités, ont annoncé qu'ils étaient responsables. Benjamin Netanyahou l'a fait à deux mots, mais pas exactement déclaré sa responsabilité, mais ça fait partie un peu, je dirais, entre guillemets, du personnage de Benjamin Netanyahou. Je pense que Israël est une démocratie assez forte pour, après la guerre, poser les bonnes questions, faire les enquêtes qu'il faut et prendre les bonnes décisions. Je pense que chacun prendra des décisions, ce sera plus ou moins difficile, ce sera peut-être un peu long, mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne doute que les choses ne pourront pas continuer telles qu'elles étaient et que les personnes qui étaient responsables directement ou indirectement de ce qui s'est passé devront répondre de leurs faits.
Alors, évidemment, je ne vais pas vous demander de lire dans une barre de café, en imaginant que la guerre se termine, c'est ce qu'on espère, et que les otages reviennent, c'est ce qu'on espère aussi. L'avenir de la bande de Gaza, d'Israël, de relations de Mahmoud Abbas également, est-ce qu'on peut peut-être évoquer quelques pistes pour l'avenir ?
Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est ce que ne sera pas la bande de Gaza. Ce que sera la bande de Gaza, c'est très difficile à dire, mais ce que ne sera pas la bande de Gaza, en tout cas, si on écoute ce qui a été déclaré pour le moment, que ce soit par certains ministres et surtout par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui l'a dit clairement. Et ce qu'il a dit clairement, c'est que la bande de Gaza ne sera pas entre les mains de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas, quelque chose d'inconcevable. Et deuxièmement, c'est que la bande de Gaza ne sera pas, on va dire, israélienne de nouveau. C'est-à-dire qu'il ne prévoit pas un retour des habitants israéliens dans la bande de Gaza.
Il a parlé quand même de sécurité, que Israël restera à Gaza.
Donc ça c'est ce que ne sera pas la bande de Gaza. Après, qu'est-ce qu'elle sera ? Sera bien entendu, il faudra assurer la sécurité des civils israéliens du sud d'Israël et tout simplement de tous les civils israéliens, puisque bien entendu, on a bien compris que le danger que représentaient des organisations comme le Hamas. Donc, est-ce que s'il va y avoir ce qu'on appelle une bande de sécurité, comme il y en avait eu à l'époque au sud Liban, est-ce qu'il va y avoir une armée internationale qui sera positionnée et qui assurera la sécurité? Est-ce que l'armée israélienne peut-être assurera elle-même la sécurité dans la bande de Gaza? Voilà, ce sont des questions auxquelles, pour le moment, on n'a pas de réponse. C'est un débat qui inquiète et qui est très important ici en Israël. Mais pour le moment, c'est très difficile d'avoir des réponses à ces questions.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Israéliens, à l'État d'Israël, à toute la population du Proche-Orient? On a craint une guerre plus générale. Pour l'instant, ça tient uniquement entre le Hamas et Israël. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les jours et les heures qui viennent ?
D'abord, ce que je souhaite, bien entendu, le retour de tous nos soldats. On est tous touchés ici en Israël. Toutes les familles sont touchées d'une manière ou d'une autre par des soldats qui effectuent leur service militaire, soit des réservistes. Tout le monde a quelqu'un de près ou de proche aujourd'hui qui est dans cette situation. Donc, bien entendu, on souhaite que tous nos soldats rentrent à la maison sains et saufs et en bonne santé. Ça, c'est la chose la plus importante. Après, ce qu'on peut souhaiter, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est que cette guerre ne dure pas trop longtemps. Ça, de ce côté-là, ça risque d'être plus compliqué. Et troisièmement, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'après cette guerre, justement, on ne retombe pas dans la situation dans laquelle nous étions avant la guerre. C'est-à-dire cette situation où on a vu des disputes très importantes entre les différentes parties de la population israélienne, une discorde très importante, des débats qui ont été très violents. Il faut espérer qu'après cette guerre, pour le moment... comme je vous l'ai dit, le peuple est uni, il y a un élan de solidarité incroyable. Il y a tous les jours des milliers de personnes qui se déplacent, qui vont dans les bases pour amener à manger aux soldats. Il y a des personnes qui font de la cueillette parce que les agriculteurs sont tout seuls. Il n'y a plus de travailleurs et ils sont obligés de remplacer par des volontaires qui viennent faire la cueillette. Les choses qui sont faites pour aider aussi les familles qui sont restées en deuxième ligne sont extraordinaires. Il y a un élan de solidarité extraordinaire qui est développé ici. Il faut espérer que cet élan de solidarité, cette union qu'on voit aujourd'hui dans le peuple ici en Israël continue. C'est vraiment le souhait que je fais ici.
Olivier Granelic, un de nos correspondants en Israël, je vous remercie d'avoir témoigné. En fait, aujourd'hui, nous avons donné des clés sur cette situation. Je vous souhaite une excellente journée. Bon courage et à très bientôt. Merci beaucoup.